Culture d'Islam par Abdennour Bidar. Jésus et l'Islam. C'est une série documentaire, le titre d'une série documentaire en 7 épisodes. 7 épisodes qui ont été diffusés sur Arte les 8, 9 et 10 décembre 2015. Une série documentaire que l'on doit au travail et à l'investigation de Gérard Mordilla et de Jérôme Prieur. Messieurs, bienvenue dans Culture d'Islam. J'étais très excité à l'idée de vous inviter parce que s'il est un beau sujet, eh bien celui-ci en est un. Hein. Jésus et l'islam, quelle est la place de Jésus, pas seulement dans le Coran d'ailleurs, hein, dans l'islam, à commencer par la place que Jésus occupe dans le Coran bien entendu, mais avant même d'en arriver au thème, je voudrais que vous nous confirmiez que la diffusion sur Arte de votre série a été vraiment un succès d'audience.
Oui, on peut parler de succès, on peut même parler presque de triomphe, quoi, puisque le premier soir à 20h50, il y a eu 1 250 000 téléspectateurs. Le problème, ça a été ensuite, la programmation nous a relayé vers 11h du soir, ce qui fait que c'était, à notre avis, trop tard pour regarder ça sereinement. Mais malgré ça, eh bien, il y a eu là aussi une audience très, très supérieure aux audiences habituelles. Et surtout, ce qui est très important aussi, c'est qu'en Allemagne, puisque Arte est diffusé en Allemagne, on a à peu près triplé l'audience habituelle d'Arte sur le canal qui est le sien en Allemagne.
Alors, nul doute que cela est dû à la qualité intrinsèque ou aux qualités intrinsèques de votre travail, de votre documentaire, consacré donc à la place de Jésus et à la représentation de Jésus dans l'islam. Forcé sans doute aussi de constater ou de reconnaître que tout ce qui aujourd'hui concerne l'islam et permet de réfléchir sur l'islam attire forcément beaucoup d'auditeurs ou beaucoup de spectateurs, étant donné qu'il y a tellement dans nos sociétés occidentales d'inquiétudes qui se cristallisent. Et de méconnaissances. Et donc c'est effectivement, d'ailleurs ça a été un des enjeux, je pense, vous allez nous en parler hein, avant même de foncer vers les thématiques de votre documentaire, on va parler des enjeux, c'est-à-dire de l'intention qui a été la vôtre. Là, vous parlez, Gérard Mordilla, vous parlez de l'ignorance autour de l'islam.
Oui, il y a une très grande ignorance occidentale vis-à-vis du Coran et de l'islam en général, puisque ce qui est mis en avant de façon contemporaine, ce sont plutôt des slogans de groupes qui se réclament de l'islam, mais qui n'ont rien à voir ni avec le Coran, ni avec la tradition littéraire. Donc, c'est un texte qui est loin de nous, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre langue, c'est une forme qui peut paraître très surprenante, et en même temps, ça nous appartient.
Et alors, vous avez choisi pour donc aller au-delà de cette ignorance et de ces incompréhensions autour de l'islam, je dirais, d'aller directement dans le dur, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose de très esthétique et d'un petit peu léger au niveau du contenu, vous avez choisi d'interroger méthodiquement un très grand nombre de chercheurs. Hein, donc c'est un documentaire, une série de documentaires particulièrement exigeante, hein, puisque c'est à chaque fois la voix argumentative d'un certain nombre d'historiens, de sociologues, de philologues, etc., qui nous introduisent dans l'univers coranique et dans l'univers de la représentation du Christ. Pourquoi ce choix de quelque chose qui peut paraître aussi, qui est très sobre, mais qui peut paraître aussi austère?
Je crois que nous ne venons pas de nulle part, hein. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait ce film sur le Coran, c'est cet épisode de série sur le Coran, en nous réveillant et un beau jour en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire,
ça
s'est pas passé comme ça.
C'est très étrange.
Non. Plutôt, ça fait à peu près 20 ans qu'on nous suggère de nous intéresser au Coran, parce que, je dis 20 ans, il y a 20 ans, nous avions commencé à préparer une série que nous avons réalisée depuis, Corpus Christi, sur les débuts du christianisme. christianisme, enfin sur la transformation de la figure historique de Jésus en Jésus-Christ. Voilà. Et cette série, ensuite, est devenue, a donné naissance à deux autres séries, l'origine du christianisme et l'Apocalypse, pour aller jusqu'à la constitution du christianisme comme religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, à la fin du IVe siècle. Et donc, en terminant cette série, il y a, je sais plus, en 2008, nous avons été très frappés de lire, je me souviens, un livre d'un chercheur allemand qui s'intitulait « Qui sont les chrétiens dans le Coran ?» Et donc, nous avons lu ce livre en nous disant « Tiens, c'est bizarre, ça rejoignait une préoccupation que l'un des chercheurs, plusieurs chercheurs, mais l'un des chercheurs nous avait amené à examiner avec attention. Le chercheur, c'est un chercheur de Jérusalem et d'Oxford qui s'appelle Guy Strumza, qui est un historien des religions, qui fait de l'histoire comparée des religions, et qui nous avait alerté sur le fait que les parents pauvres de l'histoire du christianisme, les judéo-chrétiens, ceux qui restent fidèles à la Torah, qui croient en Jésus comme Messie, mais qui restent fidèles à la Torah, qui sont les perdants de la bataille intellectuelle et théologique que vont gagner les disciples de Paul, que ces chrétiens étaient appelés nazaréens dans l'évangile de Jean, dans les actes des apôtres, et que les nazaréens étaient aussi la dénomination de ceux que l'on traduit souvent par le mot chrétien dans le Coran. Et donc,
ça vous avait alerté.
Ça nous a alerté. On s'est dit, tiens, mais est-ce que le dernier surgeon de cette histoire ne se trouve pas en Arabie? Et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Et c'est effectivement ce que vous montrez, hein, c'est-à-dire on va s'y attarder, que le Coran reprend le fil d'une ou de plusieurs controverses historiques à l'intérieur même du monde chrétien, dès les premiers pères de l'Église, autour, entre autres, de la crucifixion. Oui. Mais avant même d'en venir là, puisque vous en êtes à la source de votre travail, je voudrais vous demander pourquoi, avant même de vous intéresser, plus que de vous intéresser, de vous consacrer donc à cette étude sur Jésus et l'islam, d'où vous vient à l'un et à l'autre cet intérêt pour Jésus, pour le Christ chrétien?
Non, il n'y a pas d'intérêt pour Jésus.
Il n'y a pas d'intérêt pour Jésus. C'est un sujet comme un autre.
C'est pas un sujet. Oui. Non, mais oui. Je veux dire, on n'est jamais parti en se disant on va s'intéresser à Jésus et oui. Encore moins au Christ, qui est une figure théologique.
Voilà, tout à fait.
Mais ce qui nous a intéressé, ce qui nous intéresse toujours, c'est la littérature et le rapport de la littérature à l'histoire. Or, dans la littérature chrétienne et dans la littérature musulmane, Jésus est une figure importante, une figure essentielle. Donc au fond, nous avons plutôt suivi sa trace en tant que trace à la fois d'une formation littéraire d'un immense corpus que d'une histoire qui est une histoire extrêmement tourmentée, aussi bien du côté chrétien que du côté musulman. Donc il faut bien revenir à ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti justement d'un sujet, parce que ça n'aurait, à mon avis, eu aucun sens. On est parti de cet intérêt de faire un travail de critique textuelle et de critique historique. Parce que nous avons des témoins, et les seuls témoins qui sont des témoins fiables, parce que aussi bien du côté chrétien que du côté musulman, il n'y a pas d'archéologie, il n'y a pas de reliques, il n'y a pas de rien du tout.
Oui, oui.
Mais il y a des témoins extraordinaires que sont les textes. Et c'est ça que nous avons suivi avant tout.
Oui, sauf que si on s'intéresse aux récits qui sont le seul lien avec des personnages dont le statut est relativement indéterminé entre l'histoire et la mythologie, il n'y a pas que Jésus.
Hein, donc, ah oui, oui. Voilà. Mais si vous voulez, on est parti. J'ajouterais une chose, on est parti d'une image, d'une scène.
Oui, oui.
On est parti de la crucifixion de Jésus. D'ailleurs, c'était le point de départ de Corpus Christi, la première série, le récit de la Passion, de la mise à mort de Jésus dans l'évangile de Jean. Donc, quelques versets à partir desquels on rayonnait et on a rayonné plusieurs années. Mais si je dis une image ou une scène, c'est que on est parti d'une scène dans laquelle Jésus, juif galiléen, est crucifié par les Romains vers l'an 30 de notre ère, à Jérusalem ou près de Jérusalem. C'est ça le point de départ. Et notre étonnement, c'était de voir que trois siècles et demi plus tard, quatre siècles, Jésus devenait le fondement, pas le fondateur, mais le fondement d'une religion impériale, d'une religion d'État, et de la religion d'État de l'Empire romain. Donc c'était ce retournement, ce renversement. Comment un personnage juif, uniquement juif, devient le fondateur d'une religion qui va faire du judaïsme son ennemi, son adversaire. Et puis, la surprise continuait de se dire, Jésus n'est pas le fondateur de l'islam, évidemment, mais Jésus se retrouve auprès de Mahomet, le dernier prophète avant Mahomet, dans le Coran, et cette scène de la crucifixion se retrouve dans le Coran d'une façon tout à fait inimaginable.
Donc, comment un personnage aussi local et un événement aussi localisé devient de proche en proche, par une espèce de réaction en chaîne absolument invraisemblable, un événement universel qui va fonder une civilisation et qui va être au cœur de la controverse entre les deux grandes civilisations chrétiennes,
le judaïsme et
l'islam. Et alors, vous dites, donc Jérôme Prieur, que vous partez d'un étonnement. Et cet étonnement se retrouve aujourd'hui dans votre série Jésus et l'islam parce que, dites-vous, vous êtes parti d'une surprise.
Hein, oui.
D'une surprise de voir à quel point, et d'ailleurs, me semble-t-il, aussi bien du côté non-musulman que du côté musulman, la place de Jésus dans le Coran est largement soit ignorée, soit sous-estimée.
Nous savions que Jésus avait une place dans le Coran. Mais notre surprise, ça a été de voir... notre surprise, parce qu'on était ignorants hein, aussi, c'était de voir que Jésus était un personnage non seulement important, mais un personnage exceptionnel du Coran, que c'est un prophète comparable à nul autre, qu'il est né d'une vierge, qu'il ne meurt pas, qu'il parle de sa naissance, qu'il fait des miracles, mais donc il y a des traits qui viennent du christianisme d'une façon aveuglante, d'une part, et que d'autre part, son histoire, elle est complètement réécrite par le Coran. Ce sont les juifs qui s'accusent de l'avoir tué, alors que l'histoire sait bien que ce sont, enfin j'espère, que ce sont les Romains qui l'ont mis à mort. Et en plus, dans le Coran, cette scène est une fiction, est une illusion.
On va y venir justement. Mais avant même cela et avant d'entrer donc directement dans cette controverse au sujet de la crucifixion, à partir d'une question très simple, qui d'ailleurs je crois apparaît comme telle dans le documentaire, c'est, mais au fait, qui est mort sur la croix hein? Donc avant même d'aller de ce côté-là, il y a une seconde surprise qui vous attendait au moment où vous avez entamé ce projet. Alors on l'a dit, la place de Jésus qui est sous-estimée dans le Coran par beaucoup de consciences, musulmanes et non-musulmanes. Deuxième surprise, il y a beaucoup de recherches aujourd'hui. Oui. Et il y a une véritable communauté de chercheurs au niveau mondial que vous avez mis en scène, cette communauté, dans la série, avec des clivages très importants entre des perceptions plus traditionnelles du rapport au texte, donc plus traditionnelles, c'est-à-dire essentiellement moins critiques, cette vision, cette conception traditionnelle, voire traditionaliste du texte sacré, du Coran, comme quelque chose qui se récite plus qu'il ne se discute. Hein. Et puis, à côté de ça, ceux que vous appelez à un moment donné des révisionnistes.
C'est pas nous qui les appelons comme ça. C'est entre eux. Bizarrement, quoi.
Oui.
C'est une drôle de dénomination.
C'est bizarre. Révisionniste.
C'est pas une appellation critique. C'est
d'autant plus que le révisionnisme, quand on l'entend chez nous, c'est tout autre chose. Le rapprochement serait fâcheux. Évidemment, il y a rien à voir.
Non, absolument.
C'est-à-dire en réalité des chercheurs engagés dans une logique scientifique visant à un travail de déconstruction critique d'un ensemble de mythologies religieuses et d'analyses, d'exégèses scientifiques du texte selon des critères qui sont aujourd'hui les critères de la philologie.
Mais parce que on voit bien justement, c'est en même temps paradoxalement le témoignage de la richesse de la recherche actuelle, en tout cas de son émergence, du développement, de l'essor de l'islamologie. Parce que, effectivement, il y a des groupes très différents qui investissent le texte de façon très différentes, comme vous l'avez dit, ceux qui restent au fond dans le cercle traditionnel de l'étude coranique, et puis ceux qui au contraire s'en affranchissent totalement, et puis ceux qui sont un peu entre les deux, qui hésitent entre les deux, etc. Et c'est ça qui est passionnant aussi, parce que ce qu'on fait en réunissant les 26 chercheurs qui sont dans le film, on fait une archéologie des savoirs, c'est-à-dire que on fait la réunion qui n'a jamais lieu en réalité, puisque comme toujours, dès qu'il y a des groupes de recherche, ces groupes peuvent se connaître par les textes, etc., mais le plus souvent s'ignorent et se combattent. Or, grâce à la série, on peut voir l'état très exact de la recherche aujourd'hui.
Mais je crois la diversité des positions, pas seulement des points de vue, mais des positions, et en tout cas, le côté, finalement, malgré nous, représentatif des deux courants principaux ou des deux ou trois courants principaux qui s'activent, œuvrent à la recherche aujourd'hui, montrent, enfin, pourquoi la série a eu ce succès, ce retentissement, cette audience, et pourquoi, c'est même quelque chose qui m'étonne, mais nous étonne, je crois, pourquoi cet accueil a été plutôt tranquille. Intéressé, reconnaissant, mais tranquille. Enfin, pour le moment, il n'y a pas eu de levée de bouclier, etc. Parce que, justement, je pense que dans la série, il y a du fait de la présence de chercheurs, d'historiens traditionnalistes. Enfin, il y a une place pour tout le monde. Enfin, et que...
Et puis, c'est un débat qui est complètement dépassionné, qui se mène Absolument. De façon complètement sereine, etc. Ce qui est quand même, par les temps qui courent, particulièrement précieux. C'est-à-dire qu'on vous avez fait la démonstration qu'on peut, au sujet de l'islam, faire autre chose que s'écharper ou qu'hystériser les questions, alors même que, sur le fond, le débat est très vif. J'aimerais, par exemple, que vous nous disiez, parmi la génération de jeunes chercheurs, il y a un certain nombre de chercheurs américains, entre autres, ou allemands, lequel ou lesquels vous ont marqué ? Est-ce qu'il y a des figures en particulier dont vous avez pu admirer l'audace en matière de liberté interprétative par rapport, justement, aux écoles qui étaient plus traditionnalistes ?
Parmi ceux de tradition musulmane, quelqu'un comme Souleymane Mourad, par exemple, est quelqu'un qui est très capable d'avancer et de ne pas craindre son ombre et de faire en même temps le distinguo très clair entre ce que peut être la position d'un croyant par rapport au texte et ce que doit être la position d'un chercheur. Donc c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. Et puis, bien entendu, dans des chercheurs qui ne sont pas de tradition musulmane, quelqu'un comme Gabriel Said Reynolds, l'Américain, est aussi tout à fait en pointe. D'ailleurs, c'est une des choses pour lesquelles il est critiqué, parce que à analyser la place qui n'est pas périphérique mais centrale du judéo-christianisme et du christianisme à la fois sur l'émergence de Mahomet et sur les premières sourates du Coran, fait qu'il est évidemment accusé de christocentrisme et choses comme ça. Mais encore une fois, il faut se rendre à l'évidence. Alors, Jésus occupe cette place singulière à l'intérieur du Coran.
Voilà. Justement, c'est ce que je voulais vous demander d'expliquer, c'est-à-dire en quel sens précis est-ce qu'on le taxe de christocentrisme ?
Christocentrisme, parce que justement de remettre dans cette histoire du christianisme et du judéo-christianisme. Parce que la doctrine, si je puis dire, musulmane, c'est que tout ça est venu de rien, que Mahomet était en face de païens et que lui-même était illettré et que c'est la révélation de Dieu qui a révélé évidemment la vraie religion, qui a transformé ces païens en musulmans et que les autres n'existent pas. Voilà. Or, il suffit de lire le Coran pour voir que cette influence du christianisme, notamment du christianisme syriaque qui est juste au-dessus, mais aussi de l'Éthiopie, du Yémen, etc., et du judéo-christianisme qui est incontestable, ne serait-ce qu'à travers l'usage qui est fait des textes apocryphes sur Marie, etc., montre bien que, bien entendu, Mahomet apparaît dans une population qui ignore pas le monothéisme, puisque toutes les récits du Coran sont très allusifs. Or, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte des histoires bibliques et des histoires néo-testamentaires. Ce qui veut dire que le public auquel il s'adresse sait de quoi il parle.
Alors là, j'aimerais que nos auditeurs comprennent que la série documentaire met les pieds dans le plat, plutôt met les mains sur le texte, au sens où vous posez, et cette communauté de chercheurs pose, la question fondamentale, qui est la question de l'auteur du texte et des sources du texte. C'est-à-dire que ce que vous avez appelé la doctrine de l'islam, c'est véritablement une doctrine au sens fort, c'est-à-dire que c'est un dogme, de l'orthodoxie, selon lequel le Coran serait un texte descendu de façon verticale. Donc on aurait affaire à un événement qui serait anhistorique, il serait descendu ex nihilo sur la poitrine et dans l'intériorité passive du prophète qui n'aurait été que le transmetteur de quelque chose. On aurait affaire à une sorte de ventriloquie spirituelle. Bon, alors que là, vous montrez que, quel que soit, le, je dirais, d'un point de vue de phénoménologie spirituelle, ce qui a pu se passer dans l'intériorité de Mohammed et du point de vue du, je le mets au conditionnel, d'un contact avec une transcendance, eh bien, c'est aussi quelqu'un qui vivait situé à un moment donné du temps, dans une certaine société où il y a non seulement un certain milieu à la Mecque, mais c'est un homme qui était probablement doté d'une certaine culture, lui-même, religieuse, spirituelle, qui avait des interlocuteurs. On parle par exemple souvent, même dans la tradition musulmane d'ailleurs, du fameux moine Bahira, oui, avec lequel il était en conversation régulière. Donc en réalité, il faut bien comprendre l'enjeu de votre travail et de ce dont discute aujourd'hui la communauté de chercheurs, c'est quand même la possibilité de contester de l'intérieur et de l'extérieur de l'islam ce qui apparaît comme un dogme qui rend encore aujourd'hui dans un certain nombre de pays du monde musulman impossible discussion sur le texte.
Oui, c'est la raison pour laquelle notre série n'est pas sur exactement sur Jésus et l'islam, c'est que Jésus est le fil que nous tirons et qui permet d'éclairer l'émergence de l'islam. Que fait Jésus dans le Coran? Pourquoi? Comment? C'est la question qui nous amène à envisager le problème des influences, des sources d'inspiration, et à envisager in fine, comme vous venez de l'évoquer, la question de la composition même du Coran. On part d'un petit détail, enfin si on peut parler de détail, mais on parle c'est effectivement en importance numérique, Jésus n'est pas un personnage très important, mais son nombre de chocs, de résonance dans le Coran est importante, parce qu'elle permet d'éclairer de proche en proche tout ce qui vient d'une culture biblique, tout ce qui, enfin, sachant que Moïse et Abraham sont des personnages plus importants pour Mahomet que Jésus. Mais c'est ça qui nous intéresse. Et donc, et dans une, il faut le dire parce qu'on l'a pas vraiment dit, ça se comprend, ça se devine, mais dans une approche qui est résolument non croyante. Enfin, c'est une approche historique et littéraire du texte qui est faite avec des chercheurs qui peuvent être croyants ou qui sont incroyants. Enfin, c'est en aucun cas une approche théologique ou théologienne. Elle est faite, cette approche, avec des chercheurs qui sont, pour une grande partie d'entre eux, des historiens de la théologie, mais qui ne sont pas interrogés en tant que spécialistes de l'interprétation et du sens du texte sacré des musulmans, le Coran.
Alors, on va en venir maintenant, on a un peu dégagé l'enjeu, ou quelques-uns des enjeux. Un autre enjeu, si vous me le permettez, c'est que, bon, il n'y a pas que Daesh dans la vie.
Ben oui.
Voilà. C'est-à-dire que la vertu aussi de votre documentaire et du moment où il arrive, hein, dans l'espace public, c'est que il nous permet de prendre un peu de recul et de distance par rapport à des images sur l'islam qui ont tendance à saturer à la fois nos écrans et nos consciences. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Il y a un engagement de votre part quand même.
Parce qu'on dirait que le texte du Coran est devenu un texte interdit, un texte toxique, un texte fantasmé, et il faut rappeler que l'islam a été une grande civilisation, que ce livre est un grand livre, que ce livre est une bibliothèque à lui tout seul, et que ce livre se conçoit, s'envisage dans le cadre d'une bibliothèque aussi, d'une autre grande bibliothèque. Et donc, ramener de l'histoire, ramener de l'intelligence, ramener du passé, ramener du contexte dans la lecture de ce livre, ça nous paraît complètement capital, et si on y arrive un peu, ce sera une raison pour nous de nous réjouir beaucoup.
On va se concentrer maintenant sur la présentation de Jésus dans le Coran. Vous insistiez tout à l'heure sur le caractère littéralement exceptionnel de ce personnage dans le Coran. Exceptionnel au sens dont je dis littéral, c'est-à-dire il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas d'équivalent. Celui qui le souligne en particulier dans votre documentaire, notamment dans son premier numéro, c'était Abdelmajid Charfi, si ma mémoire est bonne, qui dit que il y a deux dimensions de ce caractère. Il y a au moins deux dimensions. Personnellement, j'en vois une troisième, mais on en parlera, de ce caractère exceptionnel de Jésus. C'est que, d'abord, il est présenté comme ayant une naissance virginale, hein, comme Adam. Il est créé
non, comme dans le christianisme. Adam, il n'y a pas de naissance virginale. Ah, excusez-moi, Adam oui, est créé directement par Dieu.
Oui, vous avez raison. C'est en ce sens-là qu'il y a une assonance entre... Si je dis ça, c'est parce qu'il y a un verset du Coran, justement,
dit, oui,
voilà, dans lequel il est dit, comme Adam, il est créé directement par Dieu, c'est-à-dire... Alors, il a une mère, Jésus, mais oui. Il y a une intervention divine, et donc il y a une dimension un peu ex nihilo dans sa naissance. Et puis le deuxième facteur d'exceptionnalité, c'est que il est présenté comme l'Esprit de Dieu. Et là, on a un passage qui est absolument prodigieux. Je me permettrai tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, de le lire in extenso, de lire le passage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc, de cette double exceptionnalité ?
Oui, ça, qu'il y ait la naissance virginale, ça, c'est évidemment très important, parce que c'est une reprise très directe de la tradition chrétienne.
Oui.
Le fait qu'il soit le souffle de Dieu, créé directement par Dieu, est plutôt un aspect qui montre, je ne dirais pas, oui, une contradiction quand même, parce que ou Jésus est le nouvel Adam, c'est-à-dire créé de la terre, ou il naît comme elle naît un être humain. Bon, mais je crois que le texte ne s'embarrasse pas de ce genre de choses, puisqu'on voit plus tard Jésus faire un miracle, comme dans le christianisme, avec des oiseaux de terre, pour montrer comment on s'y prend pour créer de la terre. Moi, je rajouterais une troisième chose qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est que Jésus parle dès qu'il naît, et qu'il est le seul prophète à recevoir la révélation dès le premier instant. Mahomet n'a pas ça. Mahomet reçoit la révélation quand il a, on dit traditionnellement, vers 40 ans. Il n'est pas question de ça, ni pour Moïse, ni pour Abraham, qui sont tous des hommes adultes. Jésus, il naît et il a la révélation. Et ensuite, il fait des miracles, etc. Et donc, il y a cette exceptionnalité et puis surtout cette singularité absolue, parce que il est utilisé dans le Coran de façon très intéressante aussi, parce que c'est à la fois quelque chose qui finalement rend hommage à la chrétienté et sert en tant que tel à montrer que les Juifs n'ont pas su reconnaître en lui le Messie, mais en même temps il est utilisé contre les chrétiens en le nommant fils de Marie pour bien insister sur le fait qu'il n'est pas le fils de Dieu malgré toutes les qualités qu'on lui attribue. Donc on voit qu'il y a là un double usage de Jésus de la part des auteurs du Coran, je ne sais pas duquel, enfin disons de... comme dirait Mehdi Hazayès, de l'allocuté
du Coran,
coranique, comme dirait Mehdi Hazayès.
C'est un peu abstrait.
Oui.
Mais laissons cela dans le flou.
Voilà, laissons cela. Enfin bon, il y a ce double usage de Jésus, à la fois contre et pour les chrétiens, contre et pour les juifs. Donc c'est qui est très intéressant, parce que ça montre une fois de plus ce lien intrinsèque entre les trois grands monothéismes.
Oui, alors pour préciser les choses, donc on parle de quoi ? On parle de plusieurs passages, en particulier du Coran. Tout à l'heure, on s'attardera donc sur la sourate 19, qui est la sourate Mariam, Marie, de la mère de Jésus, et notamment sur les versets 16 à 35. Et puis, on peut s'attarder également sur la sourate 3, dans laquelle il y a, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ce verset 59, c'est la sourate qui a pour titre la famille de Imran. Oui, je lis le verset 59, oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit « sois et il est ». Puis il lui a dit « sois et il est ». Ça, c'est une des formules les plus célèbres du Coran, en arabe « kun fayakun »,« kun soit ». Fayakun et il ou elle est. Bon. Donc, vous aviez raison, il n'y a pas de naissance virginale, mais il y a ce miracle d'une naissance à partir de la terre, à partir de rien en réalité, c'est ce que ça signifie. Mais alors, le plus étonnant, et vous l'avez signalé aussi, mais je pense qu'il faut y insister, c'est que dans la même sourate, c'est-à-dire dans la sourate 4, il y a un autre facteur d'exceptionnalité de Jésus, c'est qu'il apparaît ici comme doté d'une puissance créatrice absolument semblable à Dieu, et qui tourne justement autour de ce kun fayakun. Je lis dans la sourate 4, le verset 47, « Dieu crée ainsi ce qu'il veut. Lorsqu'il a décrété une chose, il lui dit « soit et elle est ». Donc on retrouve la même formule. Mais ensuite, au sujet de Jésus, on va trouver la même chose à travers le passage suivant. Là, ce sont les versets 48-49. « Dieu lui enseignera, donc à Jésus, le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, et le voilà prophète envoyé aux fils d'Israël. Et voilà ce que dit Jésus, donc auquel le Coran donne la parole. « Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur, et pas n'importe lequel donc. Je vais pour vous créer d'argile comme une forme d'oiseau. Je souffle en lui et il est oiseau avec la permission de Dieu. » Donc là aussi, il y a un « soi » et « elle est » cette chose. C'est-à-dire qu'il a hérité de Dieu la puissance existentiatrice, la puissance créatrice. Il y a quelque chose qui est littéralement prodigieux, parce que ce n'est pas n'importe laquelle des capacités divines, mais sa capacité par excellence, qui fait que Dieu est Dieu, comme aurait dit saint Augustin, hein, c'est-à-dire la capacité à créer ex nihilo à partir de rien. C'est prodigieux. Et ce qui est le sous-texte de tout ça, je pense que un certain nombre de chercheurs ont insisté aussi là-dessus, c'est le fait que, il est, de ce point de vue-là, largement supérieur ontologiquement à Mohammed.
Oui, bien sûr.
Hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment, le prophète de l'islam lui-même, dans le texte, n'est présenté comme ayant quoi que ce soit d'exceptionnel. Hein, il est une, ce que le Coran appelle une bachar, c'est-à-dire une créature, alors que le Christ est... Là, j'ai employé une formule chrétienne. Il a une double nature, d'une certaine façon, dans le Coran, hein, humaine et divine.
Oui, on a l'impression que dans le Coran, Jésus est vraiment sur une ligne de crête extrêmement, extrêmement ténue, mais enfin, qu'il a toutes les raisons de basculer du côté du divin, ce que reproche le Coran ou l'islam naissant ou Mahomet au christianisme, et qu'en même temps, il y a ce vertige, il y a cet appel, il y a cette attirance. Alors, bien sûr, on peut examiner les choses d'un point de vue littéraire et voir que les oiseaux d'argile qui deviennent vivants, ça vient d'un texte apocryphe chrétien, ça a une histoire, ça a une généalogie. Mais au-delà de ça, au-delà de la question des influences, de l'intertextualité, il y a la question du caractère exceptionnel et du caractère divin ou non divin de Jésus, qui est la ligne de démarcation absolument infranchissable entre christianisme et islam. Et pourtant, Jésus, dans le Coran, garde beaucoup, quasiment tous les caractères qui font de lui un personnage exceptionnellement surnaturel.
Bah, si je voulais pousser la logique que vous évoquez jusqu'au bout, et en réalité c'est le Coran hein, qui nous conduit jusqu'à cette ligne de crête, qu'est-ce qui reste comme argument contre l'affirmation chrétienne selon laquelle le Christ est fils de Dieu, dès lors que le Coran lui-même dote Jésus de caractère non seulement surnaturel, mais évidemment divin, au cœur même de ce qui fait de la divinité une divinité. Hein, et donc là, il y a quelque chose dans le texte qui est profondément antinomique ou paradoxal. On a une aporie, véritablement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce refus catégorique de la notion de fils de Dieu, littéral dans le Coran, au motif que, comme le dit l'avant-dernière sourate, Dieu n'a pas été engendré et n'a pas engendré. Hein, mais en même temps, le Christ est né de l'union de Marie. Avec, c'est la sourate qu'on évoquait tout à l'heure, Marie reçoit la visite de l'Esprit de Dieu sous la forme d'un homme parfait. Oui. C'est ça la lettre du Coran, c'est extraordinaire.
Oui. Ben, je crois qu'il faut aussi se méfier d'une chose, c'est que, bien entendu, quand on lit ça côte à côte, on se dit c'est incohérent, c'est paradoxal, etc. Mais je crois que justement, c'était pas fait pour être lu côte à côte. Je crois que ça témoigne aussi, mais on pourrait dire la même chose de la part de la tradition évangélique, d'une lecture fractionnée, c'est-à-dire que les prêcheurs lisaient tel morceau, puis expliquaient tel morceau. Il n'y avait pas de lecture continue du début à la fin. Ou alors, il y avait une récitation, et à ce moment-là, la récitation en tant que telle prenait le pas sur toute interprétation. Mais si on lit les textes, regardez l'exemple toujours que j'ai en tête, moi dans l'évangile de Matthieu, il y a la fameuse citation d'Isaïe où la jeune femme, qui est devenue la Vierge, accouchera d'un fils qui s'appellera Emmanuel. Le verset suivant, il s'appelle Jésus. Alors on se dit quoi ? La Vierge, elle n'en a rien à faire de ce que dit Dieu, elle est sourde, elle s'en fout. Non, il y a entre les deux le Targoum, l'explication, qui faisait aller de Emmanuel, Dieu est avec nous, jusqu'à Jésus, Dieu sauve, etc. Je pense que pour le Coran, on est dans le même cas de figure intellectuelle, c'est-à-dire des morceaux qui étaient utilisés par ici et par là, par les prêcheurs, mais que nous, dans notre lecture moderne, contemporaine, dans une lecture continue de l'ensemble du texte, nous permet justement de détecter, eh bien, oui, ces contradictions ou ces branches différentes d'interprétation qui sont proposées. Parce que je crois qu'il y a ça aussi, oui, qu'il y a différentes choses qui sont proposées par différents courants qui se retrouvent unifiés dans le Coran, mais c'est une pure apparence.
Oui, en même temps, la figure de Jésus, elle est assez cohérente quand au long du Coran. Et pour en revenir au Coran, je trouve que ça montre aussi une chose, c'est que ça met en relief une chose, c'est que le Coran est un livre unique par rapport à la Bible et par rapport au Nouveau Testament, qui sont des collections de livres. Donc, il y a un livre unique qui définit beaucoup plus précisément ce à quoi doit croire le croyant, d'une part. Et ça montre aussi, à mon avis, une autre chose, c'est que Mahomet, c'est que l'auteur du Coran est un exégète aussi, et quelqu'un qui est rompu non seulement à la lecture ou à l'audition des textes qui viennent de la tradition juive et judéo-chrétienne, mais que c'est aussi quelqu'un qui a une grande faculté de transmission, d'invention, de transformation.
À la fois transmission et réinvention. Oui, c'est un créateur.
La figure de Jésus montre ça. Mais en même temps, en étant très frappé, comme vous le disiez, par le fait que Jésus, il est là sur la ligne tellement fine, tellement étroite entre le divin et l'humain. Se souvenir de notre ami Abdelwahab Medem, Mahomet, la grande caractéristique de Mahomet, c'était d'être comme Marie, comme la mère de Jésus, d'être le réceptacle de la révélation. Là aussi, il faut...
Bien sûr, mais là, on retrouve d'ailleurs à cet égard le paradoxe. Moi, je crois qu'il y a plus un paradoxe qu'une incohérence, hein, c'est-à-dire plus un paradoxe qu'une contradiction. Au sens où, chez Mohammed, eh bien, il y a à la fois quelque chose qui est humain trop humain, ou humain seulement humain, mais en même temps, il est le lieu d'une révélation, c'est-à-dire d'un événement surnaturel. Donc, en réalité, on a des figures qui sont des figures archétypes, que ce soit Mohammed ou Jésus, de la complexité de l'humain. C'est-à-dire l'humain, en tout cas l'homo religiosus, hein, qui se sent à la fois écrasé dans sa finitude par la transcendance et en même temps appelé par cette transcendance. Et comme le dira Pascal chez nous, chez l'être humain, il y a à la fois la grandeur et la misère. Hein, donc je crois qu'il y a quelque chose au contraire qui évoque vraiment la complexité de notre être au monde. En tant qu'être humain, on est partagé entre le sentiment que nous ne sommes quasiment rien, nous aussi nous sommes nés de terre, et pourtant par un souffle qui semble nous dépasser et nous appeler dans une mystérieuse familiarité du côté de la transcendance et de ce qui est hors du monde. Bon, à mon avis, il y a quelque chose là qui est... Après, que chacun règle dans l'intimité de sa conscience, c'est-à-dire de la vision qu'il choisit d'avoir de lui-même et du sens de la vie. Alors, vous levez, dans ce que vous avez dit, hein, Gérard Mourdilla, un autre lièvre, en réalité. Vous dites qu'il y a des prêcheurs qui sélectionnaient, en quelque sorte, ou qui privilégiaient tel ou tel passage du Coran. Sauf que, en amont de cela, il y a aussi la question du Coran, c'est-à-dire de la constitution du texte. Hein. Peut-être que les passages qui ne sont pas tout à fait raccords, hein, même si on peut les mettre sur le compte de cette cohérence paradoxale dont on parlait tout à l'heure, ben, quand bien même, on sait très bien que historiquement, mais ça l'orthodoxie non plus, le dogme non plus ne veut pas en entendre parler, eh bien le Coran, l'objet Coran, que nous avons entre les mains, n'est pas descendu tel quel. C'est-à-dire, il est le fruit, c'est une collection de textes, c'est une recension qui a été sélectionnée parmi d'autres. Et donc, il est possible que, entre autres à propos de Jésus, hein, eh bien, on ait affaire à des choses qui ne soient pas totalement cohérentes, parce qu'il y aurait des passages qui auraient différentes provenances.
Parce qu'il y a des strates de rédaction qui sont des strates différentes, forcément. Ben oui. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir... que la tradition musulmane elle-même, les hadiths ou la sirah, témoignent justement de ces évolutions du texte, puisqu'on voit par exemple le calife Omar reprendre des morceaux du Coran qui ne lui conviennent pas pour les changer, que la tradition témoigne que Othman, qui a suivi Omar, a refait ça aussi finalement selon ses vues et a fait disparaître tout ce qui n'était pas son Coran, et plus tard que Abdelmalik, le neuvième successeur de Mahomet, lui à son tour a fait disparaître ce qui n'était pas le Coran tel qu'il voulait qu'il soit. Puis on sait qu'il y avait d'autres Corans de compagnons de Mahomet comme Massoud, etc. Donc on voit bien qu'il y a des sources différentes, qu'il y a des points de vue différents, qu'il y a forcément des variantes, et qu'il faut, c'est tout le travail de la recherche, d'essayer de déterminer justement les hypothèses qui permettent de voir telle ou telle strate rédactionnelle. L'exemple des Nazaréens est un très bon exemple, parce qu'on se rend compte que dans certains passages, si on enlève Nazaréen, le fameux passage où on dit « ne fréquentez pas les Juifs oui. et les Nazaréens car ils sont amis les uns les autres », ce qui ne veut rien dire, puisque même si on traduit Nazaréen par chrétien, Juifs et chrétiens n'ont jamais été amis les uns les autres, et si les Nazaréens sont des judéo-chrétiens, ils n'ont jamais été amis avec les Juifs. Donc on voit bien que si on l'enlève, on a « ne fréquentez pas les Juifs car ils sont amis les uns les autres ». Là, ça tient. Ça veut dire que Nazaréen est rentré tardivement dans le texte. À quel moment et pourquoi, ça, c'est très délicat de le déterminer. Mais je pense que ce travail, justement, de lecture critique, il est fondamental. C'est-à-dire de considérer ce livre comme un livre, en dehors de son utilisation religieuse,
je dirais. Oui, mais alors ce qui va être probablement difficile dans les décennies, voire les siècles à venir, c'est l'articulation de cette lecture critique avec la lecture de la foi. Parce qu'on voit bien qu'il y a là deux univers d'appréhension du texte qui se télescopent. Par exemple, pour le dire de la façon la plus simple, comment est-ce que ça se passe dans la conscience d'un chercheur qui serait en même temps un croyant? Est-ce qu'il y a une forme de schizophrénie? C'est-à-dire, à certains moments, il est chercheur, et là, il se permet, et même, c'est pas qu'il se permet, il vit d'une lecture critique et d'une approche distanciée du texte, et puis quand il est croyant, là, au contraire, bon. De la même façon, comment est-ce qu'on articule, de manière plus générale, la considération du texte comme un texte sacré, ce qui paraît presque nécessairement le soustraire à la prise de la raison critique, et justement la considération, comme vous l'avez dit, de ce texte comme n'importe quel objet littéraire. C'est difficile d'articuler les deux quand même, non?
Oui, c'est sûrement difficile, mais pourtant c'est indispensable.
Ah, c'est indispensable
parce qu'on voit à quelle dérive ne pas le faire conduit. Et c'est l'exemple parfait et l'exemple plus horrible, c'est le littéralisme. Et donc, si on veut sortir du littéralisme, il suffit pas de contextualiser spirituellement, théologiquement les sourates du Coran. Il faut aussi commencer à entreprendre ce travail d'exégèse historique et littéraire, d'exégèse critique du texte. Mais là encore, il faut regarder ailleurs pour voir comment c'est possible de le faire. Regarder ailleurs, c'est regarder dans le temps. C'est s'apercevoir que jusqu'au 10e, 11e siècle, il y a une grande tradition dans l'exégèse musulmane de questionnement du texte, d'interrogation du texte, avec les mutazilites. Mais il faut aussi regarder ailleurs, par exemple dans le christianisme. Et oui. Dans le christianisme, il y a eu des moments phares au 17e avec un oratorien qui s'appelait Richard Simon, avec un prêtre de l'école catholique de l'université catholique, de l'Institut catholique de Paris, Alfred Loisy, au début du 20e siècle, qui ont été des inventeurs de la critique historique du Nouveau Testament. Et donc je pense qu'il est urgent que la pensée musulmane, l'intelligence musulmane se dote d'outils comme ça, et que des chercheurs à l'intérieur du monde musulman s'intéressent de près au texte, enfin que tout le monde aille gagner, les musulmans.
Et qu'ils aient aussi droit de citer.
Et qu'ils aient le droit de citer, voilà.
Ce qui n'est pas gagné. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est une très belle formule, Gérard Mordilla, vous avez dit « on veut toujours que l'intelligence soit par nature ennemie de la foi ». Et oui. J'imagine qu'il y a une dimension d'engagement dans votre documentaire qui consiste justement à montrer que l'intelligence peut ne pas être ennemie de la foi. La question de l'articulation des deux reste, à mon sens, très très cruciale et difficile. Ce qui nous attend probablement dans les décennies à venir, c'est l'effort d'une nouvelle discussion possible entre ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, voire d'une nouvelle synthèse.
Oui, enfin, c'est peut-être difficile, mais je crois que c'est un immense continent qui s'offre, enfin, que ce texte est encore largement méconnu, le texte du Coran, et que on se dit quelle chance il y aurait à ce que des chercheurs travaillent ce texte, essayent de l'éclairer, essayent d'éclairer tout ce qui est dans l'ombre. Enfin, c'est une planète qui est en partie dans l'ombre, et éclaire quoi? Éclaire ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire le contexte dans lequel ce livre a pris forme. Et ce qui éclaire ce livre, c'est notamment les influences qui viennent de la tradition biblique, par exemple.
Dans cet effort en train d'émerger de la recherche mondiale, Jérôme Prieur, comment est-ce que vous avez perçu l'état de la recherche française ou francophone par rapport à ce qui peut se faire dans le monde anglo-saxon?
Elle est très en retard. Enfin, elle semble peu encouragée en France, beaucoup moins qu'elle ne l'est aux États-Unis.
Enfin, en Allemagne.
Et en Allemagne, mais aux États-Unis, c'est pas un hasard si beaucoup des chercheurs de tradition musulmane, de culture musulmane que nous avons rencontrés et des très grands. Enfin, il y en a d'autres que nous n'avons pas filmés, évidemment, mais que beaucoup de ces chercheurs travaillent dans différentes universités aux États-Unis, qui viennent, qui soient syriens d'origine, Libanais, iraniens, etc., etc. En France, il y a évidemment quelques postes importants dans l'université, à l'école pratique des hautes études avec Ali Amir Mouedi, il y a au Collège de France avec François Desroches. Mais on sent que des chercheurs, des jeunes chercheurs français comme Guillaume Di ou comme Asma Ilali travaillent, sont obligés de travailler qui en Belgique, qui en Grande-Bretagne.
Ce n'est pas la première fois que dans Culture d'Islam on contribue à lancer véritablement ce qu'il faut appeler un cri d'alarme. On avait invité il y a quelque temps le responsable du seul institut de l'EHESS qui travaille aujourd'hui sur l'étude des cultures, des représentations et des sociétés du monde arabo-musulman. Et on le sait très bien, notamment à la suite de plusieurs rapports qui ont été rendus au gouvernement, que la recherche sur l'objet islam dans son immensité en France cette recherche est en déshérence et que, comme vous venez de le dire, on est très en retard. Donc une fois de plus, dans Culture d'Islam, on se permet d'insister là-dessus, sur la nécessité, si nous ne voulons pas accumuler du retard sur des sujets aussi sensibles qui ont cet intérêt non seulement scientifique de travailler sur un texte méconnu, mais aussi cet intérêt, cet intérêt public aujourd'hui.
Et politique.
Et politique, de faire reculer l'ignorance sur l'islam.
Les responsables politiques témoignent au fond de la même ignorance et des mêmes fantasmes que beaucoup de nos concitoyens et reproduisent simplement, projettent ces fantasmes sur des textes qu'ils ignorent, qu'ils ne veulent pas connaître et qu'ils n'ont jamais ouverts. Ça, c'est un vrai problème. C'est la réalité. Je veux dire, cette ignorance, elle est criminelle parce que, en réalité, en travaillant sur ces textes, en travaillant sur le Coran, en travaillant sur la tradition musulmane, on se rend compte aussi que notre culture est, bien entendu, entièrement liée aussi à ces textes. Ils existent dans, en tout cas, notre imaginaire.
Eh oui. Alors, je lis un petit passage du Coran qui fait l'objet d'une très grande discussion passionnante, véritablement. C'est une enquête dans votre documentaire. « Wama qataluhu, wama salabuhu, walakin shubbiha lahum ». Alors en français, ça veut dire « ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié ». Mais cela leur est apparu ainsi, ou cela n'était qu'un faux semblant. De là la question que je voulais mettre au fronton de cette émission aujourd'hui. Mais qui est mort sur la croix ? Est-ce que véritablement c'est Jésus, ou est-ce que c'est... Alors l'enquête dans votre documentaire est vraiment passionnante. Est-ce que c'est un sosie ? Est-ce que c'est le scénario idéal du traître puni Judas ? Est-ce que c'est ce fameux Simon de Cyrène dont on parlait, notamment les évangiles de Matthieu et de Marc ? C'est absolument génial de suivre l'enquête menée par les chercheurs. Vous avez dû vous régaler à ce moment-là.
Dans le livre qu'on a publié au Seuil, là, qui s'appelle « Jésus selon Mahomet », qui prolonge, qui développe le travail qu'on a fait pour cette série, on ne sait plus à explorer les différentes hypothèses que les exégètes musulmans ont développées, ont défendues, et notamment en lisant Tabari et en voyant que il y avait une morphologie comme ça du substitut de Jésus. Ça pouvait être un disciple, ça pouvait être quelqu'un pris au hasard, ça pouvait être le traître, enfin, que l'imagination, comme dit Gabriel Saïd Reynolds dans l'un de nos films, a été à son comble pour savoir qui a été crucifié. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le Coran ne pose pas la question. Le Coran fait état de cette illusion, de ce faux-semblant. Mais pour autant, le Coran, le texte du Coran, ne dit pas que quelqu'un a été crucifié ou que quelqu'un aurait été crucifié à la place de Jésus. Donc on voit bien, avec ce petit épisode, comment l'interrogation exégétique, herméneutique, elle est extraordinairement riche.
Et elle reprend une vieille tradition, une vieille controverse chrétienne qui est ouverte au moins depuis Irénée.
Hein, au deuxième siècle, oui.
Même avant. L'évêque de Lyon, par le docétisme.
Par le docétisme.
Ce motif théologique assez extraordinaire que s'il y a bien une dimension divine chez le Christ, Dieu ne peut pas mourir.
Et voilà, ce qui était quand même paradoxal, c'est qu'on retrouve cette question
dans le Coran.
Et donc qui repose la problématique de la divinité ou de l'humanité du personnage de Jésus, fils de Marie.
Eh bien, Gérard Mordillat, Jérôme Prieur, merci infiniment d'être venu nous parler de votre documentaire que j'invite tout le monde à regarder.
Jésus, ou en DVD.
En DVD.
Oui, hein, parce que maintenant...
Achetez-le. Hein,
pour Noël.
Pour Noël.
Lisez-le. Lisez-le. Lisez le documentaire. Hein, lisez ce que vous voyez. Donc, je rappelle que sous ce titre, Jésus et l'Islam, c'est une série documentaire en 7 épisodes. Merci beaucoup, messieurs.
Merci.
Nous écoutons aujourd'hui et nous méditons aujourd'hui un peu sur de la musique iranienne savante. Ce sont des morceaux que nous devons à un immense joueur de zarb, Jamshid Shemirani. Et à travers les morceaux qu'on a écoutés aujourd'hui, vous avez pu reconnaître également le santour et le tar. Le santour que nous devons à Majid Kiani et le tar à Dariush Talai. Pour mémoire, le zarb est un tambour à une face, un tambour calice. Quant au santour, c'est une sitar. Et puis, eh bien, le tar, qui fut l'instrument préféré de la plupart des grands maîtres de la musique savante iranienne, il appartient à la famille des luths. C'est un luth avec un long manche. Aujourd'hui, je vais vous lire un passage du Coran. Je ne vais pas vous le réciter, je vais vous le lire pour que nous y réfléchissions ensemble. Je l'offre donc à votre méditation. C'est un passage du Coran qui est central pour comprendre ce dont il a été question pendant cette heure avec Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, à savoir la place tout à fait exceptionnelle que le Coran accorde et reconnaît à Jésus parmi les messagers de Dieu, parmi tous ceux qu'il désigne comme des messagers de Dieu. Voilà ce passage. Pour ceux qui auraient la curiosité de le lire par eux-mêmes, c'est dans la sourate 19 et ce sont les versets 16 à 35. Mentionne Marie dans le livre. Elle quitta sa famille et se retira en un lieu vers l'Orient. Elle plaça un voile entre elle et les siens. Nous lui avons alors envoyé notre esprit. Il se présenta devant elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit « Je cherche une protection contre toi auprès du miséricordieux, si toutefois tu crains Dieu. » Il dit, cet homme parfait, « Je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un garçon pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un garçon? Aucun mortel ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée. » Il dit, « C'est ainsi. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Nous ferons de lui un signe pour les hommes, une miséricorde venue de nous. » Le décret est irrévocable. Elle devint alors enceinte de l'enfant, puis elle se retira à nouveau avec lui dans un endroit éloigné. Les douleurs la surprirent auprès du tronc du palmier. Elle dit « Malheur à moi, que ne suis-je déjà morte totalement oubliée ?» Mais l'enfant, qui se trouvait à ses pieds, l'appela. « Ne t'attriste pas, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange, bois et cesse de pleurer. Lorsque tu verras quelque mortel, dis « J'ai voué un jeûne au Seigneur, au miséricordieux, je ne parlerai à personne aujourd'hui. » Elle se rendit auprès des siens en portant l'enfant. Ils dirent « Ô Marie, tu as fait quelque chose de monstrueux !» « Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pourtant pas un homme mauvais et ta mère n'était pourtant pas une prostituée. » Elle fit signe au nouveau-né et ils dirent alors « Comment parlerions-nous à un enfant, à un petit enfant au berceau ?» Celui-ci dit « Je suis en vérité le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre, il a fait de moi un prophète, il m'a béni, où que je sois. Il m'a recommandé la prière et l'aumône. Et tant que je vivrai, il m'a recommandé la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Celui-ci est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute encore. » Etc., etc., etc. C'est moi qui rajoute, bien entendu. Ce n'est pas le Coran. Je vous lisais la belle traduction littéraire et fidèle que l'on doit à Denise Masson dans la collection Folio Essais chez Gallimard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Culture d'Islam par Adenour Bidar. Aujourd'hui, nous avons interrogé la figure de Jésus dans le Coran, qui est donc mort sur la croix. Nous avons dialogué sur ce sujet avec Gérard Mordilla et Jérôme Prieur, que je remercie. Je conseille vivement à tous, pour ces fêtes, de regarder leur série documentaire événement en 7 épisodes, Jésus et l'Islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques de cette émission sur le site franceculture.fr. Je remercie pour ma part tous ceux qui ont préparé cette émission avec moi, Dominique Compétissa à la production, à la prise de son Jean-Louis Deloncle et à la réalisation Franck Lélin. Dans quelques instants, vous retrouverez Louise Touré et Rue des Écoles. Thank you.